Pour commencer, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles, lire un seul verset, deux, dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18. C'est Jésus qui parle, il est à la synagogue, on va lire à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Ce soir, nous qui sommes là, nous savons tous à peu près qui est Jésus, mais on peut se poser la question. Qui est Jésus réellement? Pourquoi est-ce que son nom, encore aujourd'hui, on est quand même en 2018, pourquoi ce nom de Jésus pose-t-il encore des problèmes? Pourquoi, quand on se trouve dans notre entourage et qu'on dit qu'on aime Jésus, les gens nous regardent bizarrement. C'est un nom qui, encore aujourd'hui, pose problème. Qui est-il? Pourquoi ce nom est là et il pose autant de problèmes? Pourquoi c'est un nom qui nous amène peut-être parfois à être moqués? Qu'est-ce que ce Jésus a fait de si spécial pour que notre calendrier soit basé sur sa vie? Les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. On voit que finalement, le texte que nous venons de lire nous parle tout simplement de sa mission, de ce pourquoi il est venu. Et ce pourquoi il était venu avait été annoncé auparavant par le prophète Ésaïe, 600 ans avant qu'il vienne. J'ai relevé dans ce texte tout simplement les différentes parties. Et la première chose que je voulais partager avec vous, c'est que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle qu'une personne pauvre puisse recevoir? Je vous pose la question. Vous êtes pauvre, vous êtes en état de mendier. Si on devait vous annoncer une bonne nouvelle, d'après vous, quelle serait-elle? Que votre situation va changer. Je pense qu'un pauvre n'attend rien d'autre. Que sa situation change. Un pauvre, il attend une délivrance. Il attend une nouvelle vie. Et c'est ce que Jésus annonce. Il annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous promet même une richesse. La Bible dit, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » On a tout pleinement en lui. La Bible nous promet même de la richesse. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous donner la richesse, alors que nous sommes pauvres. La Bible dit aussi, « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. » Ce n'est pas une version à laquelle vous êtes habitués. Mais on en arrive à un point qui est important, c'est que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je vous pose la question ce soir, est-ce que vous vous sentez pauvre? On peut oui ou non se sentir pauvre. Il y a des situations qui nous amènent à nous sentir pauvres. Imaginons avoir une maladie incurable, disons-le. On est pauvre parce qu'on ne pourra jamais obtenir la guérison à moins d'une grâce de Dieu. Si Dieu ne nous fait pas cette grâce-là, on ne sera pas guéri. Et il y a des situations où on pourrait se croire riche. On pourrait essayer, par nos mérites ou nos efforts, acheter le salut. On pourrait aussi acheter le salut peut-être par de l'argent. C'est ce que certains croient. Par notre bon caractère, par nos bonnes œuvres. Mais ce n'est pas suffisant. Le salut est bien trop cher. Et au vu du prix du salut, c'est quelque chose que je viens de citer ne sont que quelques petites pièces rouges comparées au prix du salut. Rien ne peut acheter le salut. Rien. Nous sommes tous pauvres. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre. C'est que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la richesse qui vient de Dieu. On est tous pauvres. Et Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Que cette situation peut changer. De pauvre que je suis, spirituellement, je peux devenir riche. Seulement, comme je disais, il s'agit de le reconnaître. Parce qu'il y a des fois des situations où on pourrait très bien se dire « Mais moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais, je fais attention à pas mentir, j'ai une vie réglée, je suis honnête. Voilà. » On pourrait très bien avoir ce raisonnement et se dire « Tout va bien dans ma vie, je me sens pas pauvre en plus, je suis pas malheureux, j'ai une famille, j'ai des enfants qui m'aiment, j'ai une bonne situation. » Et j'aimerais qu'on lise ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, et au verset 16. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Vous voyez encore, la question, elle est... C'est un riche qui demande ce qui lui manque. On voit un peu un état d'esprit de toujours avoir plus, toujours avoir plus. Qu'est-ce qui me manque encore ? Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Alors, qu'on comprenne pas mal ce texte, on peut être riche et être sauvé. C'est pas quelque chose d'incompatible. Mais ce que la Bible dit ici, c'est que la personne se croit riche et en plus, avide de gains, voudrait encore en rajouter. Et voudrait s'enorgueillir quelque part de c'est bon d'être parfait. Et finalement, ce que Jésus va lui annoncer, c'est presque autobiographique. Regardez, on relit cette parole. C'est au verset, Jésus lui dit, verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » C'est exactement ce que Jésus a fait. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus, il s'est dépouillé de toute sa gloire, de toute sa richesse. Il est venu sur la terre comme un homme, sans rien, comme un pauvre. Et il s'est dépouillé pour que nous, nous soyons riches. Il s'est dépouillé pour que nous, nous soyons riches. Autant vous dire que le trésor que Jésus s'est accumulé dans le ciel est grand. Mais c'est pas ça le problème, c'est que il faut comprendre que ce que Jésus lui dit, parce qu'il est question d'être parfait, et Jésus sait très bien que cet homme-là ne peut pas être parfait, parce que c'est simplement parce que lui a fait que Dieu nous voit comme parfait. Cet homme riche, il lui dit simplement, non, c'est pas quelque chose qui te manque, c'est quelque chose que tu as en trop. Et il y a des fois dans notre vie, on se dit, je suis pas riche. Il me manque ceci, il me manque cela. Qu'est-ce qui me manque pour avoir la bénédiction de Dieu ? Qu'est-ce qui me manque pour que j'aie une vie plus épanouie ? Mais le Seigneur nous dit, mais c'est pas que quelque chose te manque, c'est que tu as des choses en trop. Tu as des choses qu'il faut enlever. Il y a des choses qui sont là qui empêchent la richesse de venir sur toi. Il y a quelque chose qui est dans ta vie qui empêche Dieu d'agir. Il y a quelque chose qui est là dans ta vie que tu as, que tu possèdes et auquel tu es attaché, qui t'empêche d'avoir ce changement de vie que je veux te donner, d'avoir cette bonne nouvelle, de que tu puisses avoir vivre ce changement de vie que je te propose. C'est ce qu'il y a en trop qu'il faut enlever. Ce n'est pas quelque chose qui te manque. Ça, c'est la bonne nouvelle que Jésus annonce aux pauvres. Il veut changer notre vie. Et il nous annonce déjà certaines choses. Si on reprend notre texte, ensuite, il est dit que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour guérir. C'est facile à comprendre, peut-être plus que la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Mais quand on a le cœur brisé, il y a une vraie situation d'échec. Est-ce que c'est une souffrance à cause d'une maladie? Est-ce que au niveau social, familial, ça va pas? Peut-être est-ce que vous vous disputez avec votre femme ou votre mari? Peut-être que vos enfants vous font la tête et que votre famille est en vrac? Peut-être que vous vous sentez seul? Peut-être avez-vous des problèmes financiers? Ce sont des choses qui, quand on y réfléchit, quand on les regarde en face, nous amènent des fois à se décourager et à être bien malade. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, ceux qui se sentent en situation d'échec. Quelle que soit ta situation, si tu sens que tu es dans l'échec, le Seigneur Jésus veut te guérir. En plus de cette guérison-là, le Seigneur veut aussi te guérir littéralement. Si tu es malade, si tu es atteint dans ton corps, le Seigneur veut te guérir, il veut poser sa main sur toi. Et les souffrances qu'il a subies sur cette terre, et encore plus pendant la période de sa mort, nous montrent que par ces souffrances-là, nous pouvons être guéris. Ensuite, Jésus est venu pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Est-ce que le verbe proclamer vous parle? Je suis allé voir moi dans le dictionnaire. C'est intéressant de voir ce que ça veut dire proclamer. Proclamer, en parlant d'une autorité, faire connaître publiquement et solennellement quelque chose au public. Au peuple, déclarer quelqu'un, quelque chose, tel par un acte officiel. Par exemple, proclamer l'indépendance d'un pays. Et là, il est question d'autorité dans ce mot, proclamer. J'ai l'autorité pour proclamer. Et ce que Jésus veut proclamer, c'est la délivrance aux captifs et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 19, il est écrit: ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. De quoi sommes-nous captifs? De ce qui a triomphé de nous. Un captif, c'est un prisonnier. Un captif, c'est quelqu'un qui est privé de liberté, qui ne fait pas ce qu'il veut. Il ne va pas où il veut, parce que justement, il est prisonnier, parce qu'il est captif. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie? Je parlais justement d'enlever ce qu'il y avait en trop. Est-ce qu'il y a des choses, finalement, qui te rendent prisonnier, prisonnière? Ce sont justement ces choses que Dieu veut que tu enlèves, qui te rendront la liberté. Finalement, la proclamation, elle est là. Si tu enlèves ce qu'il y a à enlever, alors tu pourras être libre, parce que ce sont des choses qui te rendent captive. Ce sont des choses qui te rendent complètement prisonnier. Alors, on peut citer des choses, mais ça va être l'alcool, ça va être le tabac, ça va être la drogue, ça va être le jeu. Il y en a qui sont accros au jeu. Ça peut être tellement de choses. Le travail, on peut être tellement pris dans son travail que finalement c'est notre travail qui nous dirige et qui nous conduit chaque jour, et toute notre vie à côté n'a plus de sens. Je dis pas qu'il faut pas travailler. Il faut travailler pour gagner son pain. Mais il y a des fois, dans l'excès, ça devient des choses qui prennent de la place trop importante et qui nous empêchent d'avoir une vraie liberté. Ce sont surtout des choses qui nous séparent de Dieu, parce que ce sont des choses qui prennent tellement de place qu'on n'a plus de place pour Dieu. Quelqu'un qui, dès qu'il rentre chez lui, allume la télévision, là encore, je ne dis pas que faut pas regarder la télévision, mais quand c'est tout le temps, c'est un réflexe comme respirer. Comment avoir un temps devant Dieu dans le silence, justement, si la télé est allumée? Il y en a qui essayent avec la télé, mais ça m'étonnera que ce soit facile. Et ce sont des choses que Dieu peut nous montrer et qui ne vont pas. Mais il y a autre chose de bien plus important, c'est le péché. On est captif du péché, parce que c'est dans notre nature. On est prisonnier du péché, et c'est le péché qui nous empêche d'être agréable à Dieu. C'est le péché qui est en nous, dont on ne peut pas se débarrasser. C'est comme un tatouage qu'on ne peut pas enlever. C'est une marque qui est en nous, qu'on ne peut pas enlever. Et ce péché étant là, si on ne se place pas sous la bénédiction de Dieu, sous la croix, nous allons y venir tout à l'heure, on ne peut pas avoir cette liberté. Et Jésus est venu pour proclamer cette liberté. Si tu es aveugle, Jésus t'annonce le recouvrement de la vue. Peut-être que déjà, là, ce que je dis, t'ouvre les yeux sur ce qu'il y a dans ta vie qui ne va pas. Et c'est déjà un exaucement de cette prophétie aussi, quelque part, parce que c'est aussi ce que nous faisons. Annoncer le recouvrement de la vue, parce que celui qui se croit riche et qui en fait est pauvre, si personne ne le lui dit, il ne se rendra jamais compte. Le Seigneur nous appelle à ouvrir nos yeux sur notre situation. Est-ce que, oui ou non, je suis en paix avec Dieu? Est-ce que ma vie avec Dieu, elle est en phase avec ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que je me suis repenti? Est-ce que je lui ai demandé pardon? Est-ce que j'ai réalisé un jour ma nature et le fait que je ne puisse pas être réconcilié avec Dieu? Ce sont des choses que le Seigneur nous amène à réaliser. Parce que ce que le Seigneur veut faire, c'est aussi nous renvoyer libres, comme c'est aussi dit dans cette parole, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, ce sont ceux qui sont soumis à une autorité excessive et injuste, persécutés par des mesures de violence. Ça, c'est être opprimé. Nous sommes opprimés, quelque part, par le diable, par le péché, là encore, parce que tout ce qui est en nous nous attire vers la mort. Nos impulsions nous amènent vers un chemin qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui attire nos regards et nos envies, tout ce qu'on aurait envie de faire, nous amène, si on ne se soucie pas de Dieu, nous amène inévitablement vers une situation du chemin large où, sans faire d'effort, on se retrouve à descendre, à descendre, à descendre, et on se croit bien, on se croit riche, et en fait, on est séparé de Dieu, parce qu'on est dans ce péché qui n'a pas été réglé, ce péché qui n'a pas été déposé au pied du Seigneur. Mais dans la vie, on peut être opprimé aussi. Est-ce que tu as la peur, par exemple? Est-ce que tu as peur du lendemain? On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve, ce que le futur nous réserve, et on peut être dans cette attitude de se dire, rien que d'imaginer ça me fait peur. Il y en a qui ont peur de la mort, qui ont des angoisses, la peur des autres. Par peur d'aller vers les autres, on se retrouve cloîtré tout seul, Et on est malheureux, parce qu'on ne peut pas être heureux tout seul, parce que Dieu a fait l'homme et la femme pour qu'ils soient en relation avec les autres. Donc celui qui se met tout seul, il ne peut pas être heureux. On peut être opprimé par un sentiment d'échec persistant. On peut se dire que moi je suis un bon à rien, j'arrive à rien à ce que j'essaye d'entreprendre. Et le diable va bien utiliser ces choses-là pour nous accuser encore plus et nous faire croire que tout est perdu, qu'on ne peut rien sauver, que notre vie est un échec. Jésus nous dit tout l'inverse. Jésus nous dit que tu peux être libre. Ça veut dire que toute cette oppression qui est là, tu peux t'en défaire. Le Seigneur Jésus veut te défaire de tout ça. La Bible dit, et c'est Jésus qui appelle, et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Celui qui est opprimé et qui est écrasé par la vie, viens au Seigneur, et tu pourras goûter au repos qu'il veut te donner, à la paix qu'il veut te donner. Cet océan de paix, comme nous l'avons chanté, il est pour chacun d'entre nous. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions goûter à ces choses. Et j'en arrive à la dernière partie, qui est la publication. Il a publié cette année de grâce. Il l'a publié à la croix, une fois pour toutes. Sa mission était accomplie à la croix. Jésus l'a dit, sur la croix même, il l'a dit, tout est accompli. C'est une publication de l'accomplissement de cette mission. Tout ce que nous venons de voir a été fait par Jésus, et continue d'être fait par les apôtres après, et nous en sommes partis. Une fois que tout ça s'est fait, la seule chose qui nous reste, c'est une démarche de foi. Tout est affaire de foi. Est-ce que je crois que Jésus veut me donner la richesse? Ta richesse, c'est sa vie, parce que le salut qui coûte si cher, il ne pouvait être payé que par une vie parfaite, sans péché. Et c'est Jésus qui l'a fait et qui a donné sa vie pour toi. C'est ça ta richesse. Et la richesse, c'est d'une part ça, parce que Jésus est mort pour toi, mais bien d'autres choses t'attendent après. Parce qu'il y a la vie éternelle et le Seigneur, dans son ciel de gloire, t'attend. Il veut te donner cette richesse que tu n'as pas. Dans ta vie de tous les jours, le Seigneur veut te combler de ses richesses. Si tu es dans la tristesse, il veut te donner la joie. Si tu es dans le doute, il veut te donner l'assurance. Si tu es malade, il veut te donner la guérison. Mais il te faut te reconnaître pauvre pour obtenir ces choses. La guérison, il l'a obtenue à la croix. Ésaïe a écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La délivrance a été proclamée à la croix. Tu es libre car il est mort pour toi. C'est la croix qui publie le pardon de Dieu pour tous les hommes. Je l'ai cité tout à l'heure brièvement, mais j'ai noté la référence dans Colossiens chapitre 2 et au verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pas une victoire, c'est un triomphe. C'est une victoire totale, écrasante sur l'ennemi, sur le péché. Et par là, nous pouvons être sauvés. Par là, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Et Dieu veut nous donner sa grâce, qui va tendre la main pour recevoir la grâce de Dieu. Le pauvre, il mendie, et il nous faut tendre cette main aussi pour recevoir. Il nous faut nous tourner vers Dieu pour reconnaître devant Dieu notre pauvreté, notre état de péché. Dieu veut nous sauver, mais il nous faut reconnaître cet état-là et demander pardon au Seigneur pour la situation dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes pécheurs et qu'il a dû donner sa vie pour nous. Qui veut que sa vie change? Qui sera honnête pour reconnaître qu'il a besoin de changement, qu'il a besoin d'une délivrance dans sa vie? J'aimerais juste terminer sur l'origine de cette mission dans le livre d'Ésaïe. Si on prenait avec moi dans Ésaïe au chapitre 61, c'est de là que ce texte est tiré. C'est là que Jésus a lu. Alors, il n'avait pas les chapitres, hein, il n'avait pas les versets non plus. Mais il y a quelque chose que Jésus n'a pas lu, qui est important de souligner. 61, verset 2, je reprends la liste. Bon, on peut le relire. Chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Jésus s'arrête là. Mais après, on lit « Et un jour de vengeance de notre Dieu. » Ça, Jésus l'a pas lu. Et il y a une bonne raison. C'est que le jour de la vengeance de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais il arrivera. Ce jour va arriver. Et ce serait malhonnête de ne pas le lire, parce qu'il nous faut, Dieu nous supplie de faire la paix avec lui. Dieu ne nous appelle pas parce que le mot que j'employais est mauvais. Que c'est pas de la malhonnêteté, parce qu'on pourrait dire que Jésus était malhonnête, mais le jour de vengeance n'est pas encore arrivé. Mais en attendant, il nous faut le dire que ce jour va arriver. Un jour, Jésus reviendra, et il ne reviendra pas comme un petit bébé, comme on l'a fêté à Noël, mais il reviendra avec une épée à la main. Il reviendra sur son cheval blanc. C'est la description qu'on a dans l'Apocalypse. Mais c'est pour dire qu'il revient comme le roi. Il revient pour régler ce qu'il y a à régler sur cette terre. Et le jugement de Dieu arrivera un jour. Et ceux qui auront accepté la grâce, ceux qui auront accepté ce que Jésus a fait sur la croix, seront sauvés. Mais ceux qui refusent ce message, ceux qui bafouent cette bonne nouvelle, seront perdus pour l'éternité. Et sont prêts alors pour ce jour de vengeance. Qui veut que sa vie change? Courbons nos têtes quelques instants. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce. Merci parce que tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Tu t'es dépouillé de cette gloire. Tu es devenu pauvre toi-même alors que tu étais riche. Les hommes, à l'époque, n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que tu étais le seul riche. Tu ne frappais pas les regards. Tu ne pouvais pas attirer les hommes par ton aspect. Et personne n'a su reconnaître que le Dieu vivant était au milieu d'eux. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous avons accès à ta richesse. Merci, Seigneur, parce que tu nous proposes de changer notre vie. Tu nous proposes de donner la joie là où il y a le malheur et la tristesse. Tu nous proposes la consolation quand nous sommes découragés. Tu nous proposes la guérison quand nous sommes malades. Merci Seigneur Jésus. Mais tout ça, tu l'as payé cher sur la croix et nous voulons te dire encore une fois merci pour ce que tu as fait. Je te prie Seigneur pour ceux et celles qui n'ont pas pris la décision, qui n'ont pas réalisé ces choses pour que par ton esprit tu travailles les cœurs. Merci Seigneur Jésus. Pour ta grâce. Amen.